Joie d'être avec vous ce matin encore. Voilà, je me suis frotté cet après-midi. C'est le moment où tu dis, on a changé les cultes, il faut vraiment faire attention cet après-midi, et on dit matin. Bon. Nous allons lire ensemble Romains 1, 1 à 17. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît, Denis? Ah bah oui. Tu peux passer la Bible. Romains 1, 1 à 17, page 732 sur les Bibles blanches. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui êtes à Rome, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous, tous parce que dans le monde entier on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller chez vous, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Annoncer l'évangile de Dieu, c'est la mission de Paul. Que veut dire évangile ? Bonne nouvelle, je l'ai entendu. Pas très fort, mais je l'ai entendu. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est généralement proportionnelle à un besoin personnel. Je m'explique. Si je vous annonce aujourd'hui, la guerre est finie. Vous allez dire, oui, c'est une bonne nouvelle, mais quelle guerre ? On n'est pas très affecté personnellement. Un petit peu, mais pas tant que ça. Mais imaginez un instant que si tu es une maman, que tu es né en Ukraine, que ton fils vient tout juste d'avoir 25 ans et qu'on vient de lui annoncer qu'il peut et qu'il doit rejoindre le front, si à ce moment-là, alors que tu te fais un sang d'encre pour lui, le petit dernier de la fratrie rentre en courant dans la maison en disant « La guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie !» Quelle joie ! La bonne nouvelle est d'une proportion tout autant, d'autant plus importante et grande. Ainsi, la taille d'une bonne nouvelle est proportionnelle à la taille du problème. Et Paul nous dit que Dieu, qu'il a une bonne nouvelle de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour toi aussi ce matin, une bonne nouvelle de Dieu pour toi. Mais alors la question, pour savoir la taille vraiment cette bonne nouvelle, c'est quel est le problème ? Quel est mon problème ? Si c'est proportionnel. Alors, je vous propose juste d'en regarder un, parce qu'en fait il y en a pas mal des problèmes. Juste d'en regarder un, pensons juste au problème de climat-énergie. C'est un exemple. Si on en croit un spécialiste, nous ne tiendrons pas l'engagement qui a été pris lors de la COP de Paris en 2015, l'accord de Paris, qui nous dit qu'on doit limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050. C'est fini, on n'y arrivera pas. On peut essayer 2 degrés à la limite, mais là, il nous dit que si on veut y arriver, il faudrait qu'on limite nos émissions de CO2 de 5 degrés tous les ans. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, pour vous donner une idée, 5 degrés tous les ans, c'est une guerre mondiale ou un Covid. Voilà. Donc, on peut faire ça l'année 1, l'année 2, l'année 3. Voilà. Donc, on est mal parti, surtout quand on sait qu'on n'a jamais autant exploité de charbon que l'année dernière. Donc oui, on a un problème, on a un petit problème. Et d'ailleurs, on le voit, le taux de dépression post-Covid parmi les jeunes n'a jamais été aussi élevé. Et ainsi, on regarde tous, hein, on a l'impression que la population regarde impuissant la catastrophe arriver, comme un raz-de-marée. Cependant, on oublie qu'en fait, ce n'est pas ça le vrai problème. En réalité, les crimes, les guerres, que ce soit en Ukraine, en Israël, ce n'est pas ça le vrai problème. Ce sont que les symptômes, car le cœur du problème n'est pas physique, mais les spirituels. Et ces symptômes révèlent une maladie bien plus profonde, et on a l'impression, quand on entend les médias, qu'on n'en parle jamais de ce problème-là. Vous avez entendu parler des PFAS, on en a beaucoup parlé cette semaine. Ce sont des éléments chimiques qui sont également appelés polluants éternels. C'est ce qu'on mettait sur les chars, sur les produits imperméables, sur les poêles Tefal pour résister à la chaleur et à l'eau. Et en fait, ces molécules sont tellement résistantes qu'on se rend compte que chacun d'entre nous dans cette salle, on en a très probablement dans notre organisme et qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Ce sont des polluants éternels. On a commencé à les utiliser dans les années 40 et en fait, sans se rendre compte, on était atteint d'un mal, d'une molécule polluant éternel qui nous atteignait tous. Et comme les PFAS qui sont en nous, nous sommes aussi atteints d'un mal qui est la source de tous les autres problèmes, que nous sommes rebelles à Dieu. Nous l'avons vu, les 10 commandements, on n'y arrive pas. Et le problème est bien plus grand. Le PFAS qui te contamine, qui me contamine, spirituel, c'est la rébellion. Je suis rebelle à Dieu et c'est la source de tous nos problèmes. Nous sommes rebelles. Mais est-ce que vous croyez vraiment que ce gène qui dit « Dieu est mort, Dieu n'existe pas, abat le roi, on coupe les têtes » comme dans la Révolution française, qui remet en question l'autorité de Dieu, ce Dieu dirigeant de l'univers va laisser passer ça? Dieu est juste et en colère, et c'est ça notre plus grand problème. Et l'immense tsunami de la colère de Dieu qui s'abrête à s'abattre sur chaque homme et femme rebelle. En comparaison de cette colère-là, de ce tsunami de la colère de Dieu, la crise écologique à venir n'est comme une flaque d'eau, une éclaboussure dans une mare. Si la taille d'une bonne nouvelle est proportionnelle à la taille du problème, nous aurions bien besoin d'une bonne nouvelle de la part de Dieu, et ça tombe bien. Parce que Paul en a une, la bonne nouvelle de la part de Dieu. Et c'est toute cette lettre aux Romains qu'on va s'apprêter à étudier. Et dans cette introduction, chapitre 1 à 17, Paul est tellement enflammé par cette bonne nouvelle que alors qu'il écrit l'entête de la lettre, il ne peut pas s'empêcher de faire un preview ou de faire une introduction rapide et claire. C'est comme si je disais « de la part de Clément à ma chère et tendre bien-aimée Chloé, etc. » Mais sauf qu'en plein milieu, je mets de la part de Clément, qui est stagiaire à Saint-Maur et qui étudie à l'IBG et qui est tributaire, qui doit prêcher le dimanche matin la bonne nouvelle de Jésus. Il est tellement enflammé par son message qu'il coupe en plein milieu. Regardez Romains 1. Romains 1, chapitre 1. Il se présente de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et là, verset 2, il part. C'est l'envolée lyrique. Il fait une annonce de l'évangile de Dieu. Et on va voir quelle est cette bonne nouvelle. il présente l'évangile de Dieu, et ensuite on voit à quel point cela change tout. Cela change tout pour lui, à partir du verset 8, et ensuite, verset 13, quelle est sa motivation. Et j'aimerais nous engager ce matin, alors qu'on va, cet après-midi, alors qu'on va suivre ce passage. Plus nous réalisons à quel point cette bonne nouvelle est grande, sa taille, son envergure, plus cela transforme radicalement notre vie. Alors regardons d'abord quelle est cette bonne nouvelle, du verset 1 au verset 7. Quel est le cœur de cette bonne nouvelle ? Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu envoie à des hommes rebelles un nouveau Seigneur. En réponse à cette situation catastrophique, Dieu envoie une personne. Et il nous apprend quatre choses sur cette personne. Première chose, il était promis et annoncé. Verset 2. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dès l'irruption du péché au cœur de la malédiction, dès le début, quand tout a commencé, Dieu avait annoncé une bonne nouvelle. Il a maudit le serpent et il a dit que la descendance de la femme lui écraserait le serpent. C'est pour ça qu'on appelle ça le proto-évangile, le premier évangile. Il était promis. Deuxième chose, c'était un roi humain. Verset 3. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. David était un roi, Jésus était un homme de descendance royale, un roi. Troisième chose, il était promis, c'était un roi humain, c'était un fils de Dieu. Verset 4. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. A été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Ce Seigneur est fils de Dieu. Il a accepté de descendre des cieux. Mais qu'ont fait les rebelles ? Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une croix et ils se sont moqués de lui. Je lis en Matthieu 27, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit, je suis le fils de Dieu. Et trois jours après sa mort, il est revenu à la vie. Verset 4, ce verset nous dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Oui, il était bien fils de Dieu, un être divin. Et quatrième chose que nous apprenons sur cet homme, cet évangile, c'était un Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'annonçait Jésus pendant qu'il était sur terre ? Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Au cœur de l'évangile, c'est une personne, Jésus-Christ, promis, un homme, roi divin, un Dieu, fils de Dieu, un Seigneur. Et l'appel de ce Seigneur à tous les hommes rebelles est pour tous les hommes. Il propose une amnistie, la paix à tous les hommes. Tout homme qui lâchera les armes, abandonnera son ancien maître, ne cessera de se rebeller pour se placer sous ma seigneurie, sera éternellement gracié de l'entièreté de ses crimes passés. Voici le message de ce Seigneur à tous les rebelles. Voici la bonne nouvelle à l'esprit de rébellion qui nous anime tous. Et il est pour tout le monde, absolument tout le monde. Au verset 5, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre, au verset 5, pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et faisons un bond au verset 14. Paul dit, je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Que vous soyez Samoréen, Parisien, Hongkongais ou d'Afrique, que vous soyez de n'importe quelle nation, que vous soyez sages ou ignorants, éduqués, ou que vous soyez malheureusement en train de travailler dans une mine en Afrique, cet évangile est pour tous. Et ainsi, cet appel est pour toi ce matin. Je ne sais pas si tu l'as fait, si tu as accepté de suivre le Seigneur, si tu as accepté cette proposition de paix et d'amnistie. Cet appel est pour tous, il est pour toi. Jésus te dit, viens avec moi, accepte ma seigneurie, ne sois plus un rebelle. Il nous a dit en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Accepte l'appel du Seigneur, la bonne nouvelle. Mais comment est ce Seigneur ? Parce qu'on peut se dire, les seigneurs, j'en ai assez. Les dictateurs, les tyrans, les despotes, les Poutines, les Xi Jinping, même les Macron, les leaders, ça ne m'inspire pas vraiment. Avec tout le respect dû à notre cher président. Peut-être que vous êtes fatigué des leaders de notre temps et que vous n'y croyez plus vraiment. Laissez-moi vous dire, Jésus est un leader tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Écoutez les paroles de ce leader. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Viens, homme rebelle, capitule, abandonne ton ancien maître. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on aime ce Seigneur ? Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce Seigneur nous appelle à le suivre et à lui obéir. Qui dit Seigneur, dit sujet, dit soumission, dit obéissance. Paul se présente d'ailleurs au verset 1 comme un serviteur de Jésus-Christ. En grec, un doulos. On pourrait même traduire un esclave. Heureusement qu'il est doux et léger. Et il nous appelle à obéir à ce Seigneur, verset 5. Pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Alors, quand on est français, on sait qu'on n'aime pas trop l'obéissance, les règlements, etc. Mais ici, la structure est particulière. Suivez-moi. L'obéissance de la foi. Qu'est-ce que c'est que cette structure ? L'obéissance, la foi, comment est-ce que les deux vont ensemble ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Laissez-moi vous donner une image pour illustrer ça. Imaginez un arbre. La foi, la confiance, est comme cette sève qui coule dans les branches de l'arbre. La sève est invisible, on ne la voit pas, mais elle donne la vie à l'arbre et les fruits apparaissent. Et ces fruits sont comme cette obéissance, comme ces œuvres qui découlent tout naturellement de la foi. C'est l'obéissance de la foi, ce sont les fruits de la foi. Autrement dit, toutes nos actions, toute notre obéissance démontrent, sont des preuves de notre confiance en notre bon Seigneur. Il prouve à quel point nous avons confiance, nous croyons qu'il est bon envers nous et nous croyons en son œuvre. Ce sont pas des, le christianisme, ce n'est pas un ensemble de règles et il faut suivre les règles à la lettre. Non, c'est j'aime, j'ai confiance, j'ai la foi dans mon Seigneur. Alors les choses se découlent et s'appliquent et découlent naturellement, un peu comme les fruits d'un arbre. C'est l'obéissance de la foi. Ainsi, si on a la foi, cela se voit. Paradoxalement. La sève est invisible, mais les fruits, eux, se voient. Et nous lisons au verset 6, « Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome et à tous ceux qui sont à Saint-Maur, appelés à être saints. » La sainteté et la progression dans la sainteté sont des signes, des fruits de la foi qui prouvent que nous progressons. Si saint, vous savez ce que veut dire saint ? Saint veut dire totalement consacré à Dieu. Dieu est la chose la plus importante et toutes nos actions montrent cela. Consacré, dédié, complètement concentré pour montrer qui il est, célébrer sa gloire. Laissez-moi vous poser cette question. Dans ma vie, est-ce que les gens qui me côtoient voient le fruit de la foi ? Est-ce qu'ils voient l'obéissance de la foi ? Est-ce que mes amis me voient progresser dans Deutéronome 6.5 ? Est-ce que mes amis me voient progresser dans « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force » ? Est-ce qu'ils voient progresser dans « Mon amour pour le Seigneur » ? Est-ce que ma femme, mon mari, me voit progresser dans Matthieu 22 ? « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Est-ce qu'il me voit progresser dans Philippiens 2:4 que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres? Est-ce qu'il me voit progresser dans ces choses-là? Et c'est la bonne nouvelle, un Seigneur bon, et il peut nous changer totalement. Et je vous parle franchement, j'aimerais sincèrement, je prie qu'en tant que stagiaire, ici, à Saint-Maur, je puisse progresser en 2 ans. J'espère qu'à la fin de mon stage, voilà, même si vous ne me le direz pas, que vous aurez vu des fruits, des changements, un progrès. Et j'espère que Chloé aussi, à la fin de ma vie, quand on sera vers la fin, et qu'on ne sera pas trop sénile, elle aura vu des changements, elle aura vu un progrès, les fruits de la foi, l'obéissance de la foi, je l'espère. Frères et sœurs, quelles sont les habitudes? Est-ce qu'on est en train de stagner? Quelles sont peut-être les habitudes, les petites choses qu'on a laissées rentrer, mais qui au final sont des obstacles à la progression? Comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, débarrassons-nous de ces fardeaux, du péché qui nous entoure si facilement, et courons la course, en avant, progressons. Et j'aimerais vous dire, si vous souhaitez de l'aide, un vis-à-vis, on est frères et sœurs. Vous pouvez venir voir Philippe, venir aller parler à un frère dans la foi. On peut progresser ensemble. Le fruit de la foi, c'est aller ensemble vers l'avant. Et je vous y encourage. Et c'est ça la bonne nouvelle, ce message de la bonne nouvelle. C'est un Seigneur pour les hommes rebelles. On est sauvés, oui, pour avoir un nouveau Seigneur et progresser jusqu'à la sainteté, jusqu'à son retour. Voilà cette bonne nouvelle. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Et on voit dans la suite du texte l'exemple de Paul, qui lui a cette mission d'annoncer cette bonne nouvelle, et on voit dans sa vie des changements très concrets. Très, très, très concrets. Et ces changements très concrets sont comme un baromètre. On voit 3 fruits, 3 actes d'obéissance dans la suite du passage. Ils sont comme un thermomètre, un indicateur. À quel point ai-je compris cette bonne nouvelle? À quel point j'y crois? Et à quel point ça change des choses dans ma vie? Alors regardons, faisons le test. Première chose, ma vie de prière pour les autres. Notre vie de prière, généralement, est un bon indicateur de la santé de notre foi. Alors, lisons le verset 8. Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance. Au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Verset 9. Dieu que je sers de tout mon cœur, en annonçant l'évangile de son Fils, mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Est-ce qu'on prie pour nos frères et sœurs? C'est un bon baromètre. Est-ce que je remercie Dieu pour la foi et les progrès dans la foi de la personne située juste à côté de moi ou juste derrière moi, ce matin, cet après-midi? On va y arriver. Est-ce que je remercie Dieu? Est-ce que je prie pour cela? Et ça commence, je crois sincèrement, dans notre famille, dans notre propre foyer. Et moi, ce genre de texte m'encourage à me dire, est-ce que je prie pour mes parents? Est-ce que je prie pour mes frères et sœurs? Est-ce que je prie pour Chloé? Si j'ai confiance, c'est ça la question, si j'ai vraiment confiance que le Seigneur est bon, qu'il me demande de prier et qu'il va répondre à mes prières, si je crois vraiment à ça, ça doit se voir dans ma vie de prière quelque part. Et j'apprécie, cette semaine, on a passé un bon temps de prière dans le groupe de maison. Et je vous en... Voilà, cultivons ça. Prions ensemble dans le groupe de maison, continuons à partager nos sujets de prière. Et j'aimerais pas vous donner des règles, on a vu que c'était pas un ensemble de règles, mais peut-être des tuyaux pour faire un pas en avant. Comment est-ce qu'on peut faire un pas en avant dans notre vie de prière? Comment est-ce que je peux faire un pas en avant dans ma vie de prière cet après-midi? Peut-être que... On peut prendre un cahier, écrire des sujets de prière, y revenir régulièrement le matin. Peut-être qu'on peut... avoir un système de cercle concentrique, de se dire je prie pour moi, ensuite je prie pour ma famille, ensuite je prie pour l'Église, ensuite je prie pour l'unité de l'Église, je prie pour la France, ensuite je prie pour le monde. Quelles sont les choses qu'on met en place, les habitudes qui nous permettent de prier un peu plus? Et aussi, je crois, partager sincèrement nos sujets de prière. Est-ce qu'on a le courage de nous ouvrir aux uns et aux autres et de partager nos sujets de prière? Et est-ce qu'on a le courage peut-être de demander? nos sujets de prière les uns aux autres. Voilà des pistes qui pourraient nous aider dans ça. Deuxième chose que Paul fait, c'est qu'il planifie pour cela. Verset 10, constamment, je lui demande pour la prière d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Il veut aller chez eux, il prie pour cela. Et verset 13, je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller chez vous. Toujours dans cette optique, Paul fait des plans. Alors, pour les aimer, mais Paul sait que pour que les choses changent, il faut anticiper, il faut préparer, il faut planifier. On le sait, si on veut que les choses changent, il faut faire des projets quelque part, en les soumettant à Dieu. Mais planifier, tout le monde le sait, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent. Alors, que disent nos projets aujourd'hui de notre attachement à l'Évangile, de notre confiance dans cet Évangile? Et c'est une réflexion, voilà, juste une réflexion. Progresser dans l'amour pour notre frère et sœur, progresser dans la sainteté, est-ce que cela se voit dans mon planning, dans mes projets? Est-ce que quelque part c'est une priorité? Combien de temps de mon temps, de mon énergie sont employés pour faire la chose la plus importante? Aimer, fortifier, encourager. Troisième élément, et c'est la mission particulière de Paul, mais je crois qu'elle nous concerne aussi, annoncer l'Évangile. Verset 11. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Verset 14. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc Paul veut, au verset 11, leur donner un don spirituel pour qu'ils soient affermis. Au verset 12, afin qu'ils soient tous encouragés par la foi commune. Et comment est-ce qu'il fait cela? On voit au verset 15, en annonçant l'Évangile. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne parle pas à des nouveaux convertis? Il ne parle pas non plus à des non-chrétiens. Il parle à des chrétiens de longue date, des chrétiens engagés dans la foi. Alors que ce soit un collègue à qui on n'a jamais entendu parler de l'Évangile, ou que ce soit les anciens dans la foi, que ce soit le pasteur Daniel, si on veut les encourager, si on veut aussi les bénir et les aimer, l'Évangile, annoncer l'Évangile, c'est toujours l'Évangile. Et au final, l'Évangile, c'est pas juste quatre symboles sur un bracelet en plastique, mais c'est toute l'œuvre de Jésus, passé, présent et à venir. C'est pour ça que dimanche après dimanche, on annonce l'Évangile. Et c'est des choses les plus belles, de la beauté, de la substitution, de ce que Dieu a fait à la croix, aux choses les plus pratiques, comme établir un ancien, ou les principes d'éducation des enfants, ou l'idée de la soumission mutuelle dans le couple. Tout ça, c'est l'Évangile. Romains, c'est l'Évangile. C'est toujours l'Évangile. Et le fruit, c'est des affermir. Parle une parole d'Évangile, une seule parole d'Évangile, vous pouvez bouleverser l'avenir d'un enfant. Une parole d'Évangile a changé ma vie, j'en suis l'exemple vivant. Et certainement qu'une parole d'Évangile a transformé votre vie à vous aussi. Par une parole, on peut remplir le cœur d'espérance d'un frère qui est malade ou adoucir la colère d'un conjoint. Par une parole de douceur. On peut aussi relever un ami qui vient de chuter. Une parole d'Évangile. Alors, trois baromètres, trois applications. Prier, planifier, annoncer l'Évangile. Et dans cette idée de planifier pour annoncer l'Évangile, laissez-moi vous proposer deux idées d'application. Quand planifions-nous un temps pour annoncer l'Évangile? Sincèrement. Quand est-ce que je planifie un temps pour discuter avec mon mari, avec mon épouse, et pour l'encourager par l'Évangile? En tant que chef de famille, quand est-ce que j'annonce l'Évangile à mes enfants? Parmi les puritains, ils avaient redécouvert la puissance de l'Évangile et du culte de maison. Ils en faisaient plusieurs dans la semaine. Bon, on a des circonstances qui sont différentes, mais comment est-ce qu'on peut planifier pour annoncer l'Évangile? si nous croyons vraiment à ce message. Alors, ce soir, en famille ou tout seul, je vous propose, réfléchissons, discutons, prenons un stylo, écrivons, sortons peut-être les agendas et essayons donc, comment est-ce que, en priant, comment est-ce que, Seigneur, je peux vivre cela, cette confiance que la parole de l'Évangile peut changer vraiment les choses? Comment est-ce que je peux prier pour cela, planifier pour cela, annoncer cela? Et une deuxième application très pratique que je redécouvre aussi à la lumière de ce texte, mais dans ces dernières semaines, c'est l'apprentissage de verser par cœur, l'apprentissage de l'Évangile par cœur, de la mettre sur mon cœur, de les graver. C'est de l'abondance de mon cœur que la bouche parle. Et je redécouvre le plaisir, la puissance, la richesse de mémoriser la parole. Qui, alors que je suis peut-être en train de marcher dans la rue et qu'une pensée qui ne devrait pas venir me vient est inversée. Ou que, voilà, ou même quand je parle avec une personne et je ne sais pas trop comment l'encourager, mais inversée. Et la richesse d'apprendre les versets. La puissance de cet évangile-là. Alors voilà, le message central de ce Seigneur que Dieu nous donne, Jésus-Christ, pour nous sauver, cette bonne nouvelle. Les applications, quand on croit vraiment dans son Seigneur, ce que ça change, dans la prière, dans la planification, et aussi dans l'annonce de l'Évangile. Et ok, c'est beau tout ça, mais vous allez me dire, c'est pas si facile. Je sais pas on a peut-être déjà essayé, mais nous ne nous voilons pas à la face, c'est pas si facile. Et des fois, d'être motivé pour prier, d'être motivé pour planifier, pour annoncer la bonne nouvelle, etc. C'est pas si facile des fois. Et Paul dit, verset 15, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. » Et je me dis, il est où mon vif désir à moi? De manière naturelle, c'est plutôt un peu timide, pas très bavard, j'ai la main qui tremble, j'ai la voix branlante. Il est où mon vif désir? Elle est où ma flamme? Moi, c'est plutôt la flemme que j'ai. Et la plupart du temps, j'y pense même pas. Comment est-ce que Paul fait pour être aussi motivé? On a l'impression qu'il est en feu, le gars. Quel était le bois qui alimentait le feu de sa motivation? Et j'aimerais vous proposer, et c'est notre dernière partie de ce texte, il avait une belle compréhension profonde de la taille, de l'envergure de cette bonne nouvelle. Il avait vraiment compris. Et on aimerait aussi comprendre toujours un peu plus profondément ce qu'était l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Lisons ensemble versets 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Paul nous explique le cœur de ses motivations et on le voit, on peut regarder dans le texte, un ensemble de mots de liaison successifs. On voit le fondement petit à petit de cette motivation, le bois qu'il met dans son feu pour alimenter son feu. Pourquoi il a ce vif désir? Verset 15. En effet, donc vif désir, on va aller en profondeur, vif désir. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. Il n'a pas honte de l'Évangile. C'est pour ça qu'il a un vif désir. Est-ce qu'on a honte parfois de l'Évangile? Lui n'a pas honte. Pourquoi? Deux points. Verset 16, deux points. Verset 17. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Paul a réalisé la puissance de cet Évangile. Et comment est-ce qu'il a fait pour la réaliser? C'est notre question. Le dernier verset, verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Autrement dit, le fondement de ce zèle au verset 15, c'est le verset 17. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pourquoi? Parce que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Justice de Dieu. C'est frappant. Attention. Il n'est pas dit, en effet, c'est l'Évangile qui révèle l'amour de Dieu. Par la foi et pour la foi. C'est bizarre. On se serait attendu, la force de l'amour, la puissance de l'amour. Non. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Ici, Paul choisit ce mot, il ne choisit pas un autre mot. Et ce n'est pas par hasard. Il aurait pu le dire, il le dit plus loin dans la lettre. Hein. En effet, voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, en Romains 5. Alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la justice de Dieu révèle tout particulièrement? Comment est-ce que l'évangile qui révèle la justice de Dieu a cette puissance pour le salut de tout homme qui croit? Comme nous avons vu, plus le problème est important, plus la bonne nouvelle est grande. Et l'étendue du plan de secours de la croix, l'étendue du plan de secours ayant pour nom de code évangile, nous révèle l'étendue du problème en tant que tel. Quand on regarde l'évangile, nous voyons l'abysse de notre péché, le tsunami de la colère de Dieu, le mont Everest de sa justice et la puissance toute solaire de cette bonne nouvelle, la résurrection. Regardons un instant l'évangile. Un Père, Créateur, être surnaturel, tout-puissant, il cloue son Fils, lui-même volontaire, sur une croix en bois, afin que son sang parfaitement juste puisse couvrir et cacher des créatures mauvaises et rebelles, et les protéger de la juste colère. Alors que Paul regarde ces éléments, les médite, il réalise toujours plus dans son cœur la puissance astronomique de l'évangile. Comment est-ce que ça se passe? Plus je vois l'horreur de la croix, plus je réalise la profondeur abyssale et immonde de mon péché. Plus je vois la souffrance du Fils sur la croix, plus je réalise le tsunami de la colère de Dieu qui s'abrête à tomber sur les hommes rebelles et sur moi. Plus je vois la croix, plus je réalise le mont Everest de la justice parfaite de Dieu, pure et inégalée, qui devait absolument être satisfaite. Et plus je vois la croix, plus je réalise la puissance solaire de cette bonne nouvelle. Celui qui croit vivra. L'être injuste peut devenir juste. Plus un pécheur réalise au travers de l'évangile à quel point Dieu le juste est en colère contre lui, plus il réalise l'incroyable bonne nouvelle. Il peut aussi obtenir cette justice, la justice parfaite de Christ. Quelle puissance! La bonne nouvelle dans sa grandeur engouffre totalement l'horreur de la mauvaise nouvelle, du gros problème qui nous consumait tous. Ainsi, plus je regarde, plus je réalise au fond de mon cœur à quel point cette bonne nouvelle est grande, plus je réalise à quel point elle est puissante, et moins j'en ai honte, et plus j'ai un vif désir. Prenons deux exemples avant de conclure. Pour celui qui ne connaît pas la foi, qui ne connaît pas, qui est totalement pécheur, il peut se dire « Aujourd'hui, si je crois vraiment que Dieu est à ce point juste, et moi si injuste, et qu'il est à ce point en colère contre moi, il faut vite que j'accepte sa grâce et que je me cache derrière le sang de Jésus qui paye à ma place. » Il peut se dire, en attendant la justice révélée dans la croix, « Si je place ma confiance en lui, si je crois, alors la justice de Dieu m'est attribuée par le sang de Jésus. Je suis juste, et ça, c'est extraordinaire. » Et c'est pour ça que quand on annonce l'évangile, il ne s'agit pas juste de dire « J'ai donné ma vie à Jésus » ou « Tu sais, Dieu t'aime. » La puissance apparaît dans la justice de Dieu. Il faut que Jésus et ce qu'il a fait, la croix, soient au centre du message. Et au XXIe siècle, on a besoin de ça. Peut-être que, vous savez, il y a 50 ans en arrière, les gens avaient dans la conscience collective cette idée que l'enfer, c'était terrible et que ça attendait tout le monde. Et donc, quand tu leur disais l'amour de Dieu, Dieu t'aime, il veut te sortir de cette situation-là, ça leur parlait. Mais aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, Dieu t'aime, il dit oui, moi aussi, je m'aime bien. On a beaucoup moins cette conscience collective de l'enfer et du terrible sort qui nous attend. C'est pour ça qu'il faut qu'on prêche d'autant d'avantages tout l'évangile complet, la justice de Dieu révélée dans la croix. Et le deuxième élément très concret, c'est que cela change mes sentiments. Je l'ai réalisé en creusant ce passage, en le méditant aussi, et en réalisant la puissance, cette justice de l'évangile. J'ai pris de plus en plus d'assurance, de courage, de fierté. J'ai eu plus le désir de partager avec ceux qui m'entouraient. Que ce soit les frères et sœurs, mais que ce soit aussi les non-croyants. Vraiment, en côtoyant, en, en, en méditant, en regardant profondément ça, petit à petit, ça travaille le cœur. Et je vais conclure là-dessus, c'est un peu comme l'eau qui travaille une falaise. Petit à petit, l'eau vient frapper contre la falaise. Et à l'œil nu, il ne se passe rien du tout. Mais année après année, la falaise est érodée et elle tombe. Et la mer gagne du terrain. Et c'est exactement la même chose qu'on fait quand on vient dimanche après dimanche, quand on vient matin après matin, devant la foi, devant la parole, qu'on écoute et qu'on contemple l'Évangile. Et qu'on réalise à quel point il est puissant. Et cela change notre cœur. Et qu'on réalise, cette bonne nouvelle, Christ Seigneur, et qu'on peut avoir ces fruits de la foi et cette motivation pleine et entière et totale. Alors j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à méditer toujours plus cet Évangile. Et les propositions très concrètes qui ont été posées sont dans ce contexte-là aussi. C'est parce qu'on a confiance dans la puissance de cet Évangile, dans cet Évangile, que nous obéissons. La taille d'une bonne nouvelle est proportionnelle à la taille du problème. À quel point avons-nous réalisé la taille du problème, mon propre péché ? À quel point avons-nous réalisé l'envergure de la bonne nouvelle ? Cherchons à la réaliser toujours davantage, plus en profondeur. Prions. Seigneur, merci pour la puissance de ton Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, nous pouvons nous aussi être justes et totalement sauvés. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Seigneur, je prie que nous puissions réaliser davantage, toujours plus profondément, au fond de notre cœur, la grandeur de cette bonne nouvelle. Plus grande des bonnes nouvelles, le plus grand des évangiles, et que nous puissions avoir ce courage, ce feu, ce zèle à l'intérieur de nous pour l'annoncer à tous les hommes, car c'est pour tous les hommes. Fais de nous une église qui réalise toujours plus profondément la profondeur, la grandeur, la puissance de l'Évangile. Dans le nom de Jésus. Amen.